Dans le cadre du prix du concours des jeunes metteurs en scène du Théâtre 13, pour lequel Théâtre.com est partenaire, nous avons le plaisir de recevoir Ismaël Tifouche Nieto pour Jeux de Massacre.
Bonjour.
Bonjour Ismaël. Alors, quel est votre parcours artistique ?
Alors moi j'ai un parcours artistique qui est assez atypique parce que j'ai commencé le théâtre assez tard, à 23 ans. Donc je suis comédien de formation et puis je me suis très vite retrouvé dans une école nationale à Lyon. Donc j'ai passé les concours, etc. Et puis je me suis retrouvé là-bas. Et c'est véritablement là-bas que j'ai vraiment appris le métier du théâtre. Et quand je parle de métier du théâtre, je ne parle pas forcément du métier d'acteur, mais tous les métiers du théâtre, parce que dans cette école, on forme à tous les métiers du théâtre. Donc voilà, ça c'est pour ma formation. Ensuite, quelques années sont passées après la sortie de l'école et diverses créations. Donc j'ai travaillé dans des centres dramatiques nationaux un peu partout avec des metteurs en scène comme Jean-Claude Berruti, Jean-Pierre Vincent, avec qui j'ai énormément appris, Nathalie Filion, Gilbert Tsai. Donc voilà. Plein de metteurs en scène que j'ai rencontrés à la sortie de l'école. Et avec aussi le sentiment en tant qu'acteur que je faisais pas forcément ce qui me plaisait. Donc c'était indépendamment des rencontres que je faisais avec les metteurs en scène ou les créations que je faisais, mais j'avais la sensation qu'en tant qu'acteur, j'étais pas suffisamment libre. Donc j'ai créé ma compagnie l'an dernier, c'est ce que j'ai fait, et c'est ça qui a été à l'initiative de Jeux de Massacre. Donc voilà, c'est un petit peu la trajectoire.
Donc justement, le passage du comédien au metteur en scène, alors comment ça s'est fait ?
Alors, le passage du comédien au metteur en scène, il a commencé à l'ENSAT. C'est vraiment une formidable école, l'ENSAT, parce qu'on autorise, on donne des cartes blanches aux comédiens, pas forcément qu'aux comédiens, mais aux élèves. Donc comme tous les départements sont représentés, on soumet des projets à l'école, et les projets qui sont retenus, les porteurs de projets, doivent monter une équipe, et de la même façon qu'une structure de production professionnelle. Ouais. Et c'est comme ça que je me suis lancé dans la mise en scène à l'ENSAT. Et j'avais monté déjà un UNESCO, un spectacle inspiré d'un scénario de UNESCO qui s'appelait La Colère. Et voilà, donc j'avais travaillé avec une équipe de création, où on était tous élèves, et c'était formidable, parce que ça m'avait permis de me familiariser à la mise en scène dans un cadre où on peut faire encore des erreurs.
Bien sûr.
Voilà, donc c'était vraiment super. Et à la sortie de l'école, donc, je me suis dit, bon, je vais tenter des créations, des rencontres avec des metteurs en scène, etc. Et je me suis rendu compte que finalement, il fallait que je crée ma compagnie, parce que en tant qu'acteur, c'est difficile, parce qu'il y a une part d'aléatoire. On travaille sur des projets, des textes, des rencontres avec des metteurs en scène qui peuvent être décevantes, tout comme génial, mais il y a une part d'aléatoire, et j'aime avoir le choix, donc c'est pour ça que j'ai voulu créer ma compagnie, pour pouvoir me lancer dans des projets qui sont des projets qui me passionnent.
En tant que metteur en scène, ou les deux ?
Les deux.
D'accord.
Les deux.
Est-ce que vous jouez dedans ?
Non. Alors cette fois-ci je joue pas dedans parce que la langue de UNESCO est tellement complexe que je peux pas me permettre d'avoir un recul en étant à l'intérieur. Mais c'est la deuxième création que je fais avec ma compagnie. La première création que j'ai faite, Wojciech, qui sera programmée au Théâtre de la Tempête l'année prochaine, je joue dedans et je mets en scène.
D'accord.
Et avec ma propre compagnie. Et ça, c'est vraiment... C'est jubilatoire, quoi.
Ah bah oui, c'est
sûr. Mais ça ne me dérange pas de n'être que metteur en scène. Hein. Ça,
oui.
C'est vraiment... il y a la même forme de jubilation... Surtout avec des textes comme ceux d'UNESCO.
Alors, quel est, en deux mots, le thème de cette pièce ?
Alors, le thème de cette pièce, il est assez atypique, parce que C'est une histoire qui est assez drôle parce que c'est une sorte de tableau qui présente une multitude de personnages, il y en a à peu près 100. Ce sont des tableaux qui nous présentent des personnages qui sont assez ordinaires, banals, sans histoire, sans grand destin. Mais la particularité de cette histoire, c'est que tous ces personnages meurent sans raison. Il y a une épidémie qui sévit dans une ville, et tout le monde meurt sans exception et surtout sans discrimination. Donc ces tableaux nous présentent un large panel de personnes, d'hommes, de femmes, d'enfants, de riches, de pauvres, d'intellectuels, d'officiers de l'État, et tous meurent. Et ce qui est drôle, ce qui va créer les comportements absurdes chers à la littérature de Ionesco, c'est la peur de la mort. C'est ce qui va provoquer les comportements absurdes et stupides chez ces personnages-là. Parce qu'ils vont se rejeter les uns sur les autres la responsabilité de la mort. Tout le monde va accuser l'autre, tout le monde va projeter sur l'autre la responsabilité de la maladie, et c'est ce qui va provoquer un repli sur soi. Donc tout le monde va se replier sur soi, et va l'absurdité de la condition humaine va naître de ça, va naître de ce repli sur soi, et ça fait un certain écho avec notre société actuelle où on est dans une société qui est de plus en plus individualiste, où le repli sur soi est quand même omniprésent.
Il gagne du terrain.
Il gagne énormément de terrain, surtout quand on observe un petit peu le paysage politique actuel, et économique surtout. Et c'est assez intéressant de voir que dans cette pièce qui crée le repli sur soi, c'est la peur de la mort, et que dans notre monde aujourd'hui, c'est une peur omniprésente, c'est une peur de l'étranger, c'est une peur de l'autre, c'est une peur de ne pas avoir de travail, c'est une peur de tout, au final. Des fois, on ne sait même plus de quoi on a peur, parce que la peur est omniprésente dans les médias, etc. Et on se rend compte que peut-être qu'au final, c'est juste une peur liée à la nature humaine, de la mort en elle-même, et que si on avait peut-être moins peur de la mort, les choses se passeraient un peu mieux. Et on aurait... c'est un petit peu idéaliste ce que je raconte, mais c'est-à-dire que c'est tellement très bien dépeint dans la pièce. On voit très clairement, on nous décrit tellement les comportements les plus stupides au possible.
Mais c'est ça qui vous a guidé, en fait.
Les
ramifications avec la société actuelle, évidemment,
C'est assez évident quand tu prends dans la pièce.
Par
exemple, je donne un exemple, on a une scène où on a des hommes politiques qui font un discours. Donc, y a un homme politique qui fait partie de l'opposition et qui commence à accuser le pouvoir en place d'être responsable de cette épidémie. Et ensuite, coup sur coup, on a un homme politique qui fait partie du pouvoir en place. On peut imaginer que c'est le Premier ministre, que c'est le Manuel Valls de l'histoire, et qui dit, certes, il y a une épidémie, mais concentrons-nous sur ceux qui sont encore vivants. Donc il y a une espèce de démagogie chez la part de tout le monde, où on dit, c'est la faute de l'autre s'il y a la maladie, ou alors, oui, il y a la maladie, mais... on fait la politique de l'autruche. Et il y a une similitude avec ce qu'il y a aujourd'hui, c'est terrible.
La recherche des boucs émissaires.
Voilà, au lieu d'être dans l'acceptation. Donc c'est une pièce qui défend aussi l'acceptation, et puis l'ouverture sur les autres, sur l'acceptation de la mort.
Une pièce très actuelle.
Très très actuelle, oui.
Alors, par rapport à ce prix, qu'est-ce qu'il représente pour vous? Le prix du théâtre 13.
Pour moi, le prix du théâtre 13, c'est quand même une formidable opportunité pour une jeune compagnie de pouvoir exposer son travail, parce que c'est dans les temps difficiles que nous vivons, c'est pas forcément évident pour une jeune structure. Notre structure, elle a un an, c'est pas forcément évident d'avoir une certaine visibilité. Et je trouve que c'est un privilège, même, c'est une chance inouïe d'avoir un théâtre dans Paris qui ouvre ses portes à des jeunes compagnies en leur disant, montrez-nous ce que vous savez faire, et si ça plaît, il y a du public qui va venir vous voir. Ce serait vraiment, vraiment dommage de passer à côté, et que même si ça se solde par voilà, quelque chose d'inabouti ou un échec, il faut le faire. Parce que c'est important, surtout si on a des choses à dire.
Et, c'est l'opportunité de soirée, c'est ça ?
Oui.
De concentrer 400 à 500 personnes.
Bien sûr.
C'est
voilà, donc voilà, quand on est dans notre petit monde de création, dans notre petite troupe entre nous en train de travailler, on prend beaucoup de plaisir, mais on se rend pas forcément compte, surtout avec le manque de recul, on se rend pas forcément compte de l'écho que peut avoir notre travail vis-à-vis du public. Donc c'est extrêmement important d'avoir ce retour-là. Donc être en finale, c'est aussi avoir la possibilité de se dire comment notre travail va être reçu par le public, comment les gens vont apprécier ou ne pas apprécier notre travail. Et voilà, c'est une étape vers le milieu professionnel et c'est extrêmement important. C'est comme un test, quoi.
Mmh,
et c'est extrêmement agréable parce que voilà, c'est une chance. Il y a peu de théâtres qui proposent ça et il faut saisir cette chance, quoi.
Alors, quelles sont pour vous les principales qualités de ce spectacle ?
Les principales qualités du spectacle, c'est...
Qu'est-ce qui est important pour vous, finalement ?
Qu'est-ce qui est important pour moi dans ce spectacle ?
Oui,
Alors, premièrement, j'aimerais défendre la langue de Ionesco, parce qu'elle paraît désuète pour beaucoup de gens. Et je trouve que c'est dommage, parce que Ionesco est, à mes yeux, un écrivain qui a créé un théâtre vraiment révolutionnaire, beaucoup plus que Beckett, à mes yeux. Dans la langue, je veux dire. Ionesco, il a créé un théâtre où le drame, le théâtre, ne provient plus que de l'acteur. On a besoin, chez Ionesco, d'avoir un théâtre total. L'acteur ne suffit plus sur la scène. On a besoin de faire intervenir autre chose que l'acteur. On est dans une poésie, certes, des mots, mais aussi, nous sommes aussi dans une poésie visuelle. Quand on regarde les didascalies chez Ionesco, on voit beaucoup d'indications visuelles où l'auteur nous indique que, par exemple, il faut remplacer les acteurs par des marionnettes. On se rend compte que tout ne repose plus sur l'acteur, et moi ça m'intéresse parce qu'on sort du naturalisme ambiant qui notamment conditionne les jeunes écrivains d'aujourd'hui, où voilà, moi je trouve que on a un manque de renouvellement dans la littérature dramatique aujourd'hui, et je trouve ça dommage, et alors qu'on n'a pas suffisamment exploité des auteurs comme Ionesco c'est des auteurs qui n'ont pas 300 ans d'âge, voilà, Ionesco il a écrit il y a encore 40 ans, il faut les exploiter, et on ne voit pas assez Ionesco. Autre qualité du spectacle, au-delà de la langue de Ionesco, nous sommes 14 comédiens sur scène. Mmh. On est une bande d'acteurs assez dégénérés, et surtout, ayant l'intime conviction d'avoir compris l'essence même de la langue de Ionesco, ça nous permet de jubiler. Et moi, ce que j'aime voir au théâtre, c'est de voir des acteurs ou de voir une proposition artistique où il y a de la jubilation, du plaisir. Et c'est ce qui se passe sur scène. Il y a énormément de plaisir à jouer, il y a énormément de plaisir à montrer le travail. Et voilà, pour moi, c'est une énorme qualité parce que c'est ce que je veux voir au théâtre et c'est ce que je défends auprès de mes comédiens. C'est de prendre du plaisir si on veut que le public ait du plaisir.
Alors, vous avez évoqué la langue et justement, je voulais savoir si vous avez adapté toutes les didascalies de Ionesco
Alors,
quelle est la part de...
Alors, c'est assez drôle parce que au fur et à mesure de l'histoire, quand on avance dans le temps et qu'on suit toutes les pièces de Ionesco, on se rend compte que de plus en plus Ionesco laisse la place au metteur en scène. Il y a beaucoup d'idascalies dans la pièce où Ionesco dit « Les acteurs pourront dire telle ou telle phrase s'ils en ont envie. » C'est-à-dire que chez Ionesco, même les didascalies sont drôles. Donc, suivant les possibilités techniques, on peut remplacer, si jamais il n'y a pas assez de comédiens, on les remplace par des marionnettes, des choses comme ça. Donc c'est une pièce aussi qui, qui traite, parce que Ionesco détestait le théâtre, il faut le savoir. Ionesco traite de la dérision de l'existence humaine, mais aussi évoque la dérision du théâtre. Pour lui, le théâtre, c'est quelque chose de très dérisoire, c'est quelque chose qui est ridicule même. Il le dit lui-même, hein, je le cite là. Donc, en termes de mise en scène, c'est un bonheur parce qu'il nous donne les clés, il nous donne une partition. Parce que pour moi, Ionesco, c'est une partition. On ne se rend pas forcément compte de la dimension poétique de la langue de Ionesco. Il y a énormément de poésie. Il y a une partition à jouer. Et en même temps, on est libre comme l'air.
Ah, une liberté, c'est un véritable champ à déchiffrer.
Voilà.
À déchiffrer et à défricher.
Et exactement. Ouais. Donc, on est libre. Ouais. Et c'est pour ça que je pense que ma mise en scène reste assez fidèle à la partition d'Ionesco, au sens où, au-delà même du texte, Ionesco dit lui-même, entre guillemets, allez-y les gars, faites un petit peu ce que vous voulez, je vais pas vous mâcher le travail. C'est un petit peu ça, quoi.
Alors, vous avez insisté sur le caractère jubilateur de la pièce, avec notamment 14 comédiens. Mmh. Ben justement, comment s'est faite cette adhésion de tous ces comédiens à ce projet?
Ça n'a pas été facile.
14.
Alors, j'ai eu la. C'est pas le premier projet de cette compagnie. Voilà, la compagnie est née il y a un an. On a monté une pièce aussi autrement formidable, mais dans une esthétique et une poésie opposée, qui est Wojciech de Georg Büchner. Nous étions dans un noyau dur, on va dire, de 7 comédiens. Nous étions les fondateurs de la compagnie. Et on s'est dit qu'on allait se lancer dans un nouveau projet. À la base, on avait pensé monter Wojciech au Théâtre 13, mais on s'est rendu compte que ça n'avait aucune utilité parce qu'on a fait une création in situ dans un autre théâtre, etc. On s'est dit, pourquoi pas monter Jeune Massacre? Et les autres m'ont dit, oui, on se lance, c'est parti, on y va, tous les 7. Et j'ai été obligé de dire aux autres, on ne peut pas faire ça à 7, il faut qu'on soit minimum 15. Il faut qu'on soit minimum 15 parce qu'il y a plus de 100 personnages et il y a beaucoup de scènes où il y a un certain nombre. Et comme je le disais, on a besoin, pour créer un univers visuel extrêmement jubilatoire, on a besoin de nombre, on a besoin de monde sur scène. Chose rare au théâtre d'ailleurs. Donc, j'ai prospecté, tout simplement.
Ah,
ça pour en arriver là.
Ah, oui.
J'ai prospecté. Après les quelques années de théâtre que j'ai fait, voilà, j'ai la chance d'avoir connu des gens,
des gens
en qui j'ai énormément confiance, des gens avec qui j'ai des affinités artistiques et qui ont accepté de participer au projet, parce que c'est pas forcément évident. C'est un projet où personne n'est payé et c'est un projet qu'on travaille sur toute une année, donc c'est pas forcément évident. Et je pense avoir réussi
en termes de planning.
Et alors, ça c'est leur...
J'imagine 14 personnes.
Vous voyez ce que c'est, le doodle?
Oui, complètement.
Voilà, moi mon doodle, si vous voulez, c'est un puissance 4. Il y a des cases rouges, des cases vertes, des cases... Enfin, c'est un enfer. Encore aujourd'hui, pour faire mon planning pour la semaine prochaine, c'est impossible. Donc, mais c'est un souhait tellement fort de monter cette pièce à il faut que je l'assume.
D'accord.
Il faut que je l'assume, donc j'ai été obligé de me lancer là-dedans. Et maintenant, voilà, de toute façon, c'est dans un mois, quoi. Donc on va y aller. Et c'est super. Et qu'est-ce que je pourrais dire d'autre?
C'est moi qui vais dire un gros merde.
Voilà. Je prends.
Bon, merci beaucoup, Ismaël.
Merci.
Et puis, donc, à très vite.
À très bientôt.